voix nue. Cette semaine, Élise Gruau rencontre Yannick Lahens. Ce soir, Haïti, une histoire déniée et retrouvée.
Yannick Lahens, bonsoir.
Bonsoir.
Hier, nous avons évoqué ensemble votre enfance. Vous avez grandi dans cette maison, dans une famille élargie, avec des figures parentales, des grands-mères et arrière-grands-mères très fortes. Votre enfance dans laquelle la musique et les mots ont très vite pris une place importante.
Tout à fait.
Vous avez évoqué votre début de scolarité chez les religieuses. Et à 15 ans, vous partez, vous quittez Haïti pour venir à Paris. Alors qu'est-ce qui a décidé de ce départ à 15 ans? Vous étiez très jeune.
Oui, j'ai l'impression que mes parents, toujours dans ce souci de vouloir beaucoup pour nous, ont pris cette décision, peut-être face aussi aux écoles qui fermaient, etc.
Et à cause de la dictature.
Voilà, et donc, j'arrive en France et je suis encore chez des religieuses. La première dissertation, c'est moi qui ai la meilleure note de la classe, moi qui venais d'Haïti. Et à ce moment-là, je me rends compte d'une chose. Dans les écoles traditionnelles haïtiennes, étant donné qu'on considère le français comme une langue étrangère ou seconde, on met l'accent énormément sur des exercices de soutien et de renforcement, puisqu'on dit que c'est une langue qui vient d'ailleurs. Donc du coup, j'avais un niveau de français plus élevé que la classe. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'on retrouve le même phénomène. C'est-à-dire que je vois que les bonnes écoles haïtiennes, les enfants haïtiens qui sont dans les bonnes écoles haïtiennes, ont un meilleur niveau de compétences en français que les élèves haïtiens du lycée français. Donc c'est assez intéressant. D'autant plus qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si je fais une digression ou pas, l'anglais ayant pris beaucoup de place dans la société haïtienne, et le créole étant devenu langue légitime parlée, le français reste la langue de la salle de classe, par exemple, au lycée français. Sur la cour de récréation, les élèves parlent anglais ou créole. On voit vraiment une véritable mutation à ce niveau-là.
Et dans votre famille, on parlait français ou créole?
Français, créole, mais il y a aussi un partage du genre entre le créole et le français, surtout à mon époque. À l'époque où j'étais jeune et que je grandissais, les hommes parlaient plus volontiers créole que les femmes ou les enfants. Puisqu'il y a des connotations de populaire, donc forcément vulgaire, forcément inférieure, les hommes pouvaient parler créole entre eux, etc. Pour les filles, c'était « Ah non, il faut parler français. » Dans la petite bourgeoisie et dans la bourgeoisie, voilà.
C'était un témoignage de tenue.
Vous avez tout compris. Alors qu'aujourd'hui, que le créole est devenu langue officielle, que donc il y a quand même les couches sociales populaires demandent leur légitimité politique depuis quelques décennies. Et tous les soubresauts que l'on entend, ce n'est que ça. On veut avoir notre part de visibilité et de jouissance des droits comme tout le monde. Bon, évidemment, quand les journalistes présentent ça, ils présentent ça autrement, mais c'est ça, tout ce qu'on entend sur Haïti. Donc forcément, le créole a droit de cité maintenant. Ça n'a rien à voir avec l'époque où moi, j'étais à l'école.
Et comment vous le viviez à l'époque, ce partage linguistique, cette violence symbolique déjà qui s'exerçait?
Ah ben évidemment, puisque moi je ne le ressentais pas vraiment, bien que je me disais, mais ben il y a des gens qui parlent créole, il y en a qui parlent français, et pourquoi ce... Et d'autant plus que toute faute de français renvoie à un statut social. C'est un facteur d'inhibition énorme. Et pourquoi est-ce que l'anglais gagne du terrain? Il n'y a pas seulement le fait que l'anglais gagne du terrain un peu partout. C'est parce qu'une faute d'anglais ne renvoie à aucun statut social. Donc forcément, le jeune de milieu populaire, par la musique, mais en même temps, il sait que en parlant anglais, il s'impose aussi quelque part. Il peut parler sans que sa faute ne renvoie à son statut d'origine.
Et donc Yannick Lahens, vous arrivez à 15 ans à Paris. Vous entrez chez les religieuses à nouveau.
Ça me poursuit, oui.
Et est-ce que vous êtes nombreux à être étrangers, à venir d'Haïti?
Quelques-uns, non, je suis la seule haïtienne. Il y a une jeune femme qui vient du Congo. Et puis, bon, nous sommes deux à venir d'ailleurs. Une Française qui arrive du Jura. Et elle se sent un peu étrangère aussi. Et nous sommes restés amis jusqu'à aujourd'hui.
Et vous êtes dans quelle école? Comment elle s'appelle?
Ça s'appelle Dupanloup.
C'est où?
Boulogne-Billancourt. Oui, c'est ça, c'était là. Alors, c'est intéressant parce que nous, on est très curieuses, ma copine et moi. Toutes les fois qu'on peut sortir, on vient au boulevard Saint-Michel parce qu'on avait l'impression que c'était un voyage dans un autre pays.
On est en 1968.
Ah, 69.
Oui.
Donc, 70, on adore aller là. Et là, je rencontre des jeunes Haïtiens qui étaient aussi à l'époque. Et nous, c'est notre territoire, c'est là qu'on aime. Et voilà, et puis c'est resté.
Et alors, à 15 ans, quand vous arrivez en France, chez qui?
Je suis en pension, donc je ne vis chez personne. Et mon oncle maternel arrive à cette époque, donc je suis chez lui. Quand j'ai la possibilité de sortir, je sors chez lui. Il était pendant une année à Paris, ensuite il est allé à Toulouse. Donc je ne sortais que pratiquement une fois tous les trimestres, ou bien quand il y avait des vacances. Et c'est lui qui m'initie au jazz. Avec lui, je découvre l'univers du jazz. Et là, ça a été une conquête aussi.
Vous vous souvenez de ses concerts?
Je découvre... Je ne vais pas au concert, mais je les disques. Le premier qui m'a fait écouter, c'est Oscar Peterson, je m'en souviens. Ensuite, ça va être sa période Coltrane. Il aimait beaucoup John Coltrane. The Love Supreme, il mettait ça en boucle. Et Miles Davis. Et Miles Davis, moi, est resté mon idole dans la mesure où je trouve que c'est quelqu'un qui a traversé tous les styles du jazz, le swing, le bebop jusqu'au free jazz, et puis qui est retourné à quelque chose de plus classique avec ces derniers, comme Toutou. Voilà. Donc, oui, je suis absolument imprégnée. Ella Fitzgerald, voilà.
Et pendant combien d'années vous ne retournez pas à Haïti, le temps de vos études?
Pendant deux ans, ensuite après le bac je reviens, et puis après ça a été les années d'études universitaires. Là je suis déjà jeune adulte, et voilà.
Et Yannick Lins, quand vous arrivez à la Sorbonne après le bac, vous vous inscrivez comme étudiante en littérature, et il me semble que vous faites une expérience de nouveau, d'une grande violence symbolique, de découvrir que dans cette littérature française, francophone, Haïti n'existe tout simplement pas.
Absolument pas. Oula, ça a été une grande découverte. Bon. Et le hasard, tout à fait par hasard, je m'inscris à un cours sur Michelet. Alors c'est la sorcière de Michelet. Oula. Je sais pas pourquoi je m'inscris à ce cours. Et je tombe sur un professeur brillant qui s'appelle Jacques Sébachère. Il fait un cours en amphithéâtre, c'était un des rares cours en amphithéâtre de l'époque, et je découvre, par cet enseignement, qu'on peut, dans l'histoire, mettre sous silence des majorités entières de gens, puisque, à travers la sorcière, il y a la sorcière qui est la figure suprême, mais les juifs, les morts, tout ce qui ne rentrait pas dans un paradigme de définition étroite de ce qu'est l'homme, allez, sur le bûcher, ou bien on n'en parle pas, ou bien... Et là, ça va me travailler. Bon, pendant toutes mes études, je me dis, ben tiens, donc dans l'histoire, il y a des processus comme ça, de mise à l'écart, de mise sous silence, de bâillonnement. Donc je vais expliquer tout ce qui n'existe pas et qui devrait exister. D'ailleurs, mon premier choc, ça a été à l'école, quand je faisais mes premiers cours d'histoire... La révolution haïtienne, il y a même pas, il y a peut-être une phrase sur la révolution de Saint-Domingue. Alors que moi, la révolution de Saint-Domingue, c'est 3 années d'histoire en Haïti. Alors je me dis, waouh, c'est quand même incroyable qu'un fait aussi important, pas seulement de l'histoire française, mais de l'histoire du monde, parce que c'est quand même la 3e révolution des temps modernes. Après la révolution américaine, la révolution française et à la révolution haïtienne, qui pousse plus loin d'ailleurs l'idéal des Lumières.
1804, Haïti conquiert son indépendance.
Oui.
Première république noire au monde.
Oui, et puis qui pousse plus loin l'idéal d'égalité des lumières. Rien. Waouh. Et là, je commence à me rendre compte, pendant les années d'études, que le savoir est quelque chose de construit. On construit en mettant de côté un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, si on parle d'histoire postcoloniale, décoloniale, bon, ça fait tout un débat, mais ça vient de là. Parce que c'est une partie de l'histoire de France. De 1685 à 1804, c'est l'histoire de France. C'est pas l'histoire des États-Unis, c'est une colonie française. Alors, comment se fait-il que ça ne soit pas, ça ne fasse pas partie des savoirs fondamentaux, minimaux, que n'importe qui passe par l'école devrait savoir. Bon, la révolution américaine, c'est quand même le produit des Lumières, fait avancer les droits individuels, mais l'esclavage continue et la discrimination jusqu'au XXe siècle, les années 60. La révolution française fait avancer les droits de l'homme, et même pas la femme, puisque la femme n'est même pas mentionnée, mais en fait, c'est une avancée. Mais l'esclavage demeure, malgré la Révolution française. Et c'est Haïti qui pousse la question de l'égalité le plus loin et fait avancer les idéaux des Lumières. Parce que même quand on relit les écrits des philosophes des Lumières, il y a quand même un silence sur... Alors, des gens qui passent leur temps à réfléchir sur les lois ne s'interrogent, pas un ne s'interroge sur le Code noir. Qui est pourtant en vigueur depuis 2 siècles. Donc, en ce sens, la révolution haïtienne est même impensable pour l'époque. C'est comme ça que beaucoup d'historiens, et surtout Michel Rof-Trouillot, il dit que c'est un événement de l'ordre de l'impensé et de l'impensable.
Avec qui est-ce que vous partagez ?
Les haïtiens, pour commencer. Ceux qui étudient l'histoire, ceux qui ont étudié la sociologie, l'anthropologie, et je commence à voir que bon, on construit tout ça. Et l'idée c'était que oui, c'était tellement sauvage que les Haïtiens ont tué tous les Français, tous les Blancs, tous les Français. Or, qu'est-ce qu'on découvre? Que les Polonais qui s'étaient solidarisés des Haïtiens contre l'armée de Napoléon ont été faits Haïtiens. 1804, c'est-à-dire la première constitution, ils sont considérés comme des Haïtiens. Donc ça, ce qui met tout complètement hors de propos cette espèce d'imagerie que vont véhiculer des gens comme Victor Hugo, Balzac, tout le 19e siècle, c'est ça. Personne ne parle de la démesure de l'esclavage.
De 1697 à 1804, Haïti, sous le nom de Saint-Domingue, est colonie française. Et c'était même c'est un foyer économique et politique fondamental.
Elle exportait, à un moment donné, plus de sucre que Cuba, la Jamaïque et le Brésil réunis. Vous imaginez la démesure des conditions de travail pour que... Et le sucre, c'est le pétrole de l'époque. C'était l'équivalent du pétrole aujourd'hui. Ensuite, ça a été le café. L'indigo, enfin, le coton, tout ça. Et contrairement, par exemple, aux colonies espagnoles ou anglaises, c'était pas des colonies de peuplement. C'est-à-dire que si vous allez au centre de Cuba ou de Santo Domingo, vous voyez des édifices qui ont été bâtis. La première université, d'ailleurs, de cette région, en République dominicaine. Cuba, ils étaient venus pour s'installer et durer. Non, en Haïti, pas du tout. C'est juste des colonies d'exploitation. Il n'y a rien. On ne construit rien. On vient, on exploite, on s'en va. Quand on dit qu'on doit lier les deux histoires, il ne faut pas oublier que la bourgeoisie qui est la force progressiste et qui va amener le 1789, une grande partie d'entre elles s'est enrichie sur ce sucre. 15 à 20% des gens qui sont dans les premières assemblées ont des liens avec l'esclavage et la colonie, donc. Tout cela, je crois qu'il faut quand même que les gens, que les élèves en France le sachent. Ça fait partie de leur histoire. Et je trouve anormal, par exemple, qu'on fasse un dictionnaire de la Révolution française en 1989. Aucune entrée sur Toussaint-Louverture, aucune entrée sur Saint-Domingue. Là, je crois qu'il y a des choses à rattraper.
C'est encore le déni.
Encore le déni. Et je crois qu'on aurait intérêt, parce qu'en Haïti, nous, on apprend l'histoire de France. Or, oui, ça fait partie de l'histoire de France aussi.
Et dans ces années 70, où vous êtes étudiante à Paris, donc vous faites partie de groupes d'étudiants haïtiens, mais mêlés d'étudiants d'autres
Absolument.
Pays, d'étudiants français. Il y a quand même aussi un mouvement de conscience fort du poids de la décolonisation, du poids politique des empires. Est-ce que...
Oui, mais...
Est-ce que ça vient nourrir votre réflexion sur l'injustice ?
Alors, absolument. Mais moi... Je suis beaucoup plus focalisée sur l'histoire d'Haïti avec les Haïtiens. Les études postcoloniales qui commencent aux États-Unis à percer n'arrivent en France que 30 ans plus tard. Quand on prend Orientalisme de Saïd, ça a été traduit 30 ans plus tard. Quand on prend Laura Anstler sur La chair de l'Empire, c'est traduit 30 ans après. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les études postcoloniales aux États-Unis et la France qui est énorme, absolument énorme. Alors, on peut expliquer ça par le fait que les États-Unis, n'ayant pas de passé vraiment colonial, voilà, ont intérêt à développer tout ce qu'ils appellent postcolonial studies ou bien subaltern studies, ils appellent ça. Donc, c'est intéressant. Mais déjà, l'histoire d'Haïti, moi je lis un certain nombre de choses qui paraissent sur l'histoire d'Haïti, sur le vaudou, la culture populaire haïtienne, et je mets les choses en place. Je me rends compte que le vaudou va servir comme paradigme coupure barbare civilisée. Je vais me rendre compte, avec le texte de Lainey Curbon, Le barbare imaginaire, que la création du barbare moderne, c'est à partir de Saint-Domingue. Tous les clichés qui vont avoir cours au 19e siècle. Donc tout ça, je découvre, oui, à ce moment-là.
Je reviens un peu en arrière au temps où vous êtes encore lycéenne à Paris. Parce que pendant ces années où vous êtes loin de vos parents, ils vous envoient des livres sur Haïti.
Oui, ça a été.
Sur le vaudou. Et lors d'un retour à Haïti, vous leur dites, je veux voir une cérémonie.
Moi, évidemment, je danse, mais pour moi, ce ne sont que des danses. À la maison, on n'est pas très religieux, je dois vous dire. Baptisé, oui, mais c'est pas la famille où on va à la messe tout le monde, tous les dimanches, tout ça. Donc, moi, j'arrive en France, on me demande, j'étais peut-être en première, faire une exposé sur Haïti, je demande des bouquins, on me les envoie. Le vaudou. Oula. Je dis, mais waouh. Mais je connais pas ça, Et à un retour, j'ai dit non, il faut absolument qu'on m'emmène. Et mes parents étaient assez ouverts aussi. Mais ben, si tu veux voir, on va t'envoyer. Donc ils m'ont arrangé une rencontre en fait avec une famille et on m'emmène. Ils m'accompagnent même pas. Ils m'envoient avec quelqu'un de confiance. Et j'ai une amie qui était aussi elle en Suisse qui veut absolument voir aussi. Et on passe une soirée extraordinaire.
Dans un faubourg de Port-au-Prince.
Dans un faubourg de Port-au-Prince.
Qu'est-ce que vous voyez ?
Un cimetière. Enfin, il y avait tout pour nous. Qu'on ait le goût du mystère et de l'aventure, c'était incroyable. Et on arrive dans une sorte de clairière. Toutes les femmes habillées en blanc. Et c'était une cérémonie familiale. Magnifique. Moi, j'en ai gardé un souvenir magique. Donc là, j'avais vu ma première cérémonie haïtienne, service vaudou. C'était waouh.
Et là, vous comprenez ce qui se passe ? Enfin, vous avez 16 ans, c'est la première cérémonie ?
Je ne comprends pas, mais j'ai une impression qui est magnifique. Donc, bon, à partir de là, je me dis, je sais que c'est pas... quand j'entendrai des choses complètement négatives, je saurai que c'est pas ce que j'ai vu. Donc, c'est déjà une impression positive.
Vous avez une appropriation
de
votre
culture.
Ah bon,
oui, à ce moment-là, je...
Parce que dans votre famille, comme dans beaucoup d'autres de la moyenne bourgeoisie, on n'était ni vraiment catholique, ni pratiquant
vaudou.
Alors,
je dois dire qu'il y a certainement des membres de ma famille qui l'étaient. Les membres qui étaient restés dans les villes de province. Mais nous, on n'était rien du tout. Enfin, on est baptisés, etc. Mais je ne suis pas dans une famille pratiquante de quelque religion que ce soit, d'ailleurs. Ouais.
Et le vaudou devient un centre d'intérêt pour vous.
Ah,
vous
tout à fait. Oui. Mais je découvre aussi de plus en plus cette espèce d'exceptionnalité d'Haïti. La difficulté à être exceptionnel. La difficulté à être atypique. Cette difficulté à être différent aussi bien par rapport à l'Amérique centrale que la Caraïbe. On est de la Caraïbe, mais on est quand même différent à cause de cette histoire-là.
Laquelle ?
À cause du fait qu'on a l'indépendance plus tôt et qu'on construit une culture qui n'a rien à voir avec, je pourrais dire, les modèles de la modernité. Capitaliste ou socialiste, c'est-à-dire autour d'un monde matériel, autour d'une certaine organisation de la société, capitaliste ou socialiste d'ailleurs. C'est pour ça que je dis que Haïti, pour moi, ne sera jamais ni la République dominicaine ni Cuba, c'est autre chose. C'est la vie en communauté, c'est le peu, c'est le partage de ce peu, c'est le sacré, c'est... Voilà. Pourquoi est-ce qu'arrive aussi la révolution haïtienne? C'est que pendant les dernières périodes, pour intensifier la production, on fait arriver de plus en plus d'esclaves. Donc ils sont fraîchement arrivés, ils ne sont pas encore imprégnés de la culture créole. Donc ils reproduisent très vite, avec un mélange de survivance indienne, comme d'éléments de la culture, des cultures traditionnelles européennes, quelque chose, en fait, qui est nouveau, mais qui est une sorte de bricolage de choses anciennes.
Et de l'Afrique.
Et de l'Afrique, etc. Donc, ça donne jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que malgré la paupérisation, l'urbanisation sauvage qui détruisent cette espèce de capital symbolique, il y a quelque chose qui demeure. Et ce quelque chose de ces valeurs traditionnelles qui font qu'on n'est pas encore dans le chaos. Parce qu'il y a encore la solidarité, parce qu'il y a encore ce partage, il y a ce sens de l'autre qui fait que malgré la paupérisation, malgré l'urbanisation sauvage qui donne des gangs, il y a quelque chose qui permet à... Je ne sais pas combien de temps ça peut durer encore, hein, je ne sais pas. Mais il y a cette chose-là, tiens, qui permet de tenir.
Les personnages de vos romans tiennent fort aussi à travers la culture vaudou. À travers cet ancrage entre, vous dites, les pieds dans la terre d'Haïti, mais la tête, le mental, encore en Afrique.
Oui.
Et avec cette idée aussi du voyage des morts sous les eaux de l'Atlantique vers la Guinée.
Absolument.
Donc l'ancrage, il est encore complètement actuel avec l'Afrique.
Oui, sans oublier que l'imaginaire va aussi aujourd'hui vers d'autres lieux, parce que la migration, elle est quand même dans les milieux populaires aussi. Donc la globalisation arrive aussi, là, la mondialisation arrive dans les imaginaires. Parce que les paysans aussi voyagent et vont dans les îles autour, comme aux États-Unis, comme Bahamas, etc. Donc c'est tout ce mélange-là qui permet de... Enfin, qui fait l'Haïti d'aujourd'hui. Parce que je regarde l'inspiration des jeunes écrivains et écrivaines qui font la relève, le rapport d'abord à la langue française ou à la langue créole. À la langue créole, elle n'est pas volontariste, comme ça a été le cas des générations qui se battaient pour le créole. Le créole est là maintenant, donc il n'y a pas de raison de se battre autant. Du coup, ils n'ont pas ce rapport aussi de relation particulière avec le français. Le français, ben, s'ils ont envie de l'employer, ils l'emploient. Sans ce sentiment de culpabilité d'employer le français. Et on a de nouvelles générations qui écrivent en espagnol, parce qu'ils ont fait des études en République dominicaine. Il y a aussi ceux qui sont partis au Chili. L'un d'entre eux, d'ailleurs, c'est un médecin haïtien, qui continue à écrire Haïti, mais en espagnol. Et il y a la troisième génération de la diaspora aux États-Unis qui, elle, écrit en anglais. Donc voilà, Haïti qui est écrite dans quatre langues pratiquement aujourd'hui. C'est comme une image du monde en train de se faire. C'est-à-dire, on va vers un monde dans le 21e siècle où les langues n'ont pas qu'un seul drapeau, une seule patrie.
À l'époque où vous êtes étudiante à Paris, étudiante à la Sorbonne, il y a ce groupe d'étudiants haïtiens, vous y découvrez la militance politique.
Oui, moi je n'ai jamais été affiliée à aucun parti, mais je découvre d'abord les gens du PUSH, Parti Unifié des Communistes Haïtiens, il y a les socialistes, il y a les maoïstes, enfin il y a tout. Moi je fréquente tout le monde, D'ailleurs, nous sommes les premiers à faire revivre le groupement des Haïtiens étudiants à Paris. Et nous regroupons tout le monde. Et là, on commence à faire des activités, des conférences. On monte des spectacles parce que l'un d'entre nous avait travaillé avec Jean-Marie Serrault comme acteur. Donc, on monte des spectacles avec lui. C'était une très belle période. Et ça, c'est intéressant parce que comme dans les groupements politiques, il y a toujours une sorte de sectarisme, nous sommes le point d'union, ce groupement des Haïtiens étudiants à Paris. Donc, tout le monde vient voir les spectacles, tout le monde vient aux conférences.
Et quand vous dites tout le monde, c'est des étudiants français et de tout pays?
Alors, ou c'est les Haïtiens de toutes les tendances et les étudiants français, les amis. Moi, j'ai des amis, une amie tunisienne. Moi, je fréquente vraiment énormément de gens. Un de mes meilleurs amis va d'ailleurs devenir un grand écrivain turc, Nedim Gürsel. On a étudié Rimbaud ensemble, on a étudié je ne sais plus quoi ensemble. Donc, vraiment très ouvert. Et là, je crois que les gens commencent à voir que, bon, des éléments de la culture haïtienne, de l'histoire d'Haïti. Et ça, ça a été un moment vraiment de, comment je pourrais dire là, de convivialité. Et c'est après que je rentre en Haïti. Mais moi, c'est le moment aussi où j'ai profité pour aller voir Miles Davis en concert. Gato Barbieri, j'ai vu La Fitzgerald, enfin, j'en ai profité vraiment énormément. Pour le théâtre, Peter Brook au Bouffe du Nord, en fait, Oui, pour moi, Paris, c'était une ville culturelle extrêmement riche jusqu'à aujourd'hui.
Et vous rencontrez aussi votre mari?
Oui, que lui est en études d'économie et on fait beaucoup la fête aussi. On avait un ami danseur, Ernst Duplan, qui était chorégraphe. Donc chez lui, il y avait de grandes soirées. Et tout le plaisir, c'était d'attendre le premier métro et d'aller manger des croissants. Voilà, c'était la belle époque. On allait écouter du jazz aussi à la Paillotte, qui était à la rue Monsieur le Prince.
Et dans quelle profession vous vous projetez?
Ah, forcément enseignante. Donc je vais en Haïti. C'est l'époque où quand même on se dit, on a appris quelque chose et on va se mettre au service presque. Donc j'ai tout de suite commencé à enseigner. Et ensuite j'ai commencé à travailler avec le groupe qui va introduire le créole dans le système éducatif haïtien. Ça, ça a été un gros projet, tout à fait révolutionnaire à l'époque. Oula, il y a eu beaucoup de réticences, donc on devait aller à la radio, expliquer, voilà. Ça n'a pas été facile. Mais maintenant, c'est accepté. On a le créole comme langue, à la fois objet et langue d'enseignement.
Yannick Lars, nous poursuivons notre entretien demain à propos de votre retour en Haïti au milieu des années 70. Merci beaucoup, bonsoir et à demain.
Merci, à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Élise Gruau avec Yannick Lahens. À voix nue, réalisation Assia Ralid, prise de son Thomas Robin, coordination Sandrine Trainer, attachée de production Daphné Abgral. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr.